Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, lundi 20 avril 2026. Vous écoutez l'émission quotidienne d'information locale de Syllab. Et vous étiez peut-être du côté de Chartres de Bretagne hier vers 21h40. Si c'est le cas et que vous aviez les yeux rivés vers le ciel, vous avez peut-être aperçu quelque chose d'extraordinaire. Des traînées jaunes, vertes et rouges ont illuminé la nuit dans ce coin d'Ille-et-Vilaine. Peut-être un météore, en tout cas un bolide spatial, entré brièvement dans l'atmosphère terrestre. Le phénomène intéresse tout particulièrement Vigiciel. C'est un programme de sciences participatives qui est rattaché au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui invite à observer les étoiles filantes. L'organisme lance un appel à témoignages. Si vous avez observé, filmé ou photographié l'objet volant, vous pouvez envoyer toutes vos données à Ouest France sur redaction.rennes@ouest-france.fr. La science vous remercie. Tout de suite, le flash de l'Afken.
Le détroit reste étroit. Hier, un navire américain a ouvert le feu sur un cargo iranien circulant dans le détroit d'Ormuz. En réponse, l'Iran ne participera pas au pourparlers avec les États-Unis prévu aujourd'hui. Vendredi, Téhéran a annoncé rouvrir le détroit. Washington, de son côté, maintient son blocus sur les ports iraniens. Toujours hier, Donald Trump l'a affirmé, si aucun accord n'est signé, les États-Unis détruiront toutes les centrales électriques et les ponts iraniens. À 2 jours de la fin du cessez-le-feu, la situation reste donc largement incertaine. Russie ou pas Russie, telle est la question que se pose l'Europe de l'Est. Hier, la Bulgarie a voté pour la 8e fois en 5 ans. À l'issue de ces élections législatives, c'est l'ex-président de centre-gauche Roumen Radev qui est sorti vainqueur. Critique envers l'Union européenne, Roumen Radev rassure donc la Russie. Dimanche 12 avril, lors des élections législatives en Hongrie, le conservateur proche de Moscou Viktor Orban s'est incliné face à Peter Magyar, figure d'une droite pro-européenne. Universal Music, Canal+, Gameloft ou les boutiques Relais, l'empire médiatique de Vincent Bolloré continue de s'étendre. Dernier épisode en date, le licenciement du patron des éditions Grasset, Olivier Nora, en poste depuis 26 ans. Une maison d'édition appartenant au groupe Hachette Livre, lui-même contrôlé par l'industriel breton depuis 2023. Roman revient sur cette décision, provoquant une onde de choc dans le monde de l'édition.
La sidération et la colère n'auront pas tardé. À l'annonce du départ d'Olivier Nora mardi dernier, 170 auteurs et autrices claquent la porte des éditions Grasset, parmi eux Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy ou encore Sor Chalandon. Tous et toutes dénoncent une guerre idéologique menée par Vincent Bolloré. Dans une lettre commune publiée le soir même, je cite « Une fois de plus, Vincent Bolloré dit « Je suis chez moi et je fais ce que je veux au mépris de celles et ceux qui publient, de celles et ceux qui accompagne, édite, corrige, fabrique, diffuse et distribue nos livres et au mépris de celles et ceux qui nous lisent. » Et ce ne sont pas les seuls à se soulever. Une bonne partie du secteur éditorial s'inquiète. À noter ces derniers jours deux tribunes. La première d'Antoine Gallimard, PDG du groupe, publiée dans le journal Le Monde jeudi dernier. La seconde, toujours dans Le Monde, parue vendredi, concerne un collectif de plus de 200 éditeurs et éditrices. Et enfin, un appel de 300 écrivains et écrivaines à la création d'une clause de conscience, publiée par la tribune dimanche. Une polémique à laquelle Vincent Bolloré a répondu lui-même hier dans les colonnes du journal Dimanche, média qu'il possède. Dans un court billet appelé « Séisme », point d'interrogation, il décrit le milieu éditorial comme, je cite, « une petite caste qui se croit au-dessus de tout ».
Derrière ce licenciement, une question se pose, celle de l'indépendance éditoriale.
Je suis fière d'avoir pu porter les couleurs de Grasset en toute indépendance. Ce sont les mots d'Olivier Nora à l'annonce de son licenciement. Selon France Inter, depuis le rachat du groupe Hachette Livre en 2023, l'ancien PDG déchu savait sa position fragilisée. L'enseigne est connue pour être le ciment d'une maison d'édition aux opinions diverses. Je cite la lettre commune. Les éditions Grasset étaient notre maison particulière car s'y côtoyaient pacifiquement des auteurs et autrices qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose. Olivier Nora en a été le rempart et le ciment par son élégance morale, sa disponibilité et son engagement. Pour lui succéder, Vincent Bolloré a nommé Christophe Thierry, un profil financier adhérent à la bolosphère et sans expérience dans l'édition littéraire. Un choix alimentant les craintes d'un virage idéologique. Certains pointent déjà l'exemple des éditions Fayard, autre maison du groupe. Depuis son rachat, Fayard, traditionnellement réputé pour ses ouvrages d'histoire, a surtout publié des auteurs marqués à droite ou à l'extrême droite, comme Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella ou Philippe de Villiers.
Mais pourquoi Olivier Nora a-t-il été limogé ?
Officiellement, les raisons du licenciement restent floues, mais selon Le Monde, le départ d'Olivier Nora pourrait être lié à un désaccord sur la publication du prochain livre de Boualem Sansal. Son arrivée à Grasset avait d'ailleurs fait grand bruit en mars dernier. Boualem Sansal, débauché de chez Gallimard, a été imposé à Grasset sans qu'Olivier Nora ne soit consulté. Certains et certaines voient dans ce licenciement la main d'un milliardaire assoiffé de pouvoir, d'autant que le timing interroge à 2 jours de l'ouverture du Salon du Livre à Paris. La maison d'édition Grasset n'était d'ailleurs pas présente.
Ce week-end, pourtant, le Salon du Livre de Paris a battu un nouveau record de fréquentation, 121 000 visiteurs et visiteuses réunis en 3 jours au Grand Palais. Les cyberattaques vont-elles devenir monnaie courante ? Aujourd'hui, l'Agence nationale des titres sécurisés, ou ANTS, a été victime d'une fuite de données selon le ministère de l'Intérieur. Un incident de sécurité concernant des données à caractère personnel comme les noms, les prénoms, les dates de naissance et les adresses électroniques. Depuis 2007, c'est l'ANTS qui délivre notamment les titres de séjour, les cartes nationales d'identité ou encore le permis de conduire. Comme pour chaque incident de fuite de données, le ministère de l'Intérieur recommande de rester vigilant et vigilante quant aux SMS et courriels suspects. Un extraterrestre a marché sur Portland. Hier, le basketteur français de 22 ans Victor Wembanyama a joué son premier match en play-off de NBA. Concluant avec 35 points marqués, 5 rebonds et 2 contres, le Frenchie de 2m24 confirme son surnom d'alien. Des statistiques jamais vues depuis 28 ans pour un joueur arrivé en NBA il y a seulement 3 ans. Résultat, une victoire de San Antonio et Wembanyama 111 à 98 contre l'équipe de Portland. Un petit pas vers les finales de la NBA et un grand pas vers la nomination de Victor Wembanyama comme meilleur joueur de la ligue. Coup de blues pour le métal breton. La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, le groupe de métal rennais Fange a été victime d'un vol. Un malheureux événement arrivé la veille de leur tournée internationale lors d'un arrêt dans le Jura. Disparition d'amplificateurs, d'enceintes, camionnettes découpées à la meuleuse. Le préjudice s'approcherait des 12 000 euros. Déterminé à assurer leur concert, le groupe Fange a donc lancé un appel aux dons sur ses réseaux sociaux, ainsi qu'une invitation à acheter leurs disques et leur merchandising. À vos manettes, mercredi et jeudi, Saint-Grégoire accueille pour sa 4e édition l'événement Roison E-Cup. Organisé par le collectif 3 Hit Combo, les 2 journées seront consacrées au e-sport. Entre découvertes, ateliers et tournois de jeux vidéo, l'événement permettra aussi au public de rencontrer l'autrice et journaliste Lucie Cosmala. Beaucoup de temps fort conclut lors d'une finale par équipe le jeudi. Et pour avoir toutes les informations, les lieux et la programmation, rendez-vous sur le site de 3hitcombo.fr ou de saint-grégoire.fr.
C'était le flash de l'Afghan Zepeda.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Le 9 avril dernier, l'Afghan Zepeda et Roman Hubert se sont rendus aux assises du journalisme de Tours. Il et elle y ont discuté journalisme indépendant et se sont demandé comment il peut influencer la vie politique française avec un invité de marque. On les écoute.
Habillés d'une veste marron et d'une chemisette verte, aujourd'hui nous recevons Fabrice Arfi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, rédacteur chez Mediapart, et bien sûr, vous êtes le visage des révélations politiques en France. On va avoir le temps de les aborder ici, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu votre nom, vous avez notamment dévoilé l'affaire Sarkozy-Kadhafi, Karachi et bien d'autres.
Fabrice Arfi, vous avez commencé en tant que journaliste pour la rubrique culture de la rédaction Le Figaro Lyon. Pourquoi vous êtes tourné vers le journalisme d'investigation et plus particulièrement la vie politique française ?
Alors, moi, je fais partie de celles et ceux qui récusent l'expression de journaliste d'investigation. Je ne suis pas du tout un journaliste d'investigation, je suis un journaliste d'information. Je crois qu'il y a, dans le métier de journaliste, l'information et le commentaire. Voilà. Et moi, j'aime bien être un petit artisan du réel, c'est-à-dire de l'information dont on a besoin ensuite pour avoir des opinions et les commenter. Et pour répondre à votre question, Alors moi, il se trouve que je n'ai pas fait d'études. J'ai commencé le journalisme à 18 ans à Lyon, où je suis né, en effet, à Lyon Figaro. Et en fait, le métier que je voulais faire, c'était musicien. Voilà. Et donc, c'est un peu par dépit que j'ai écrit sur la musique. Moi, j'ai commencé à écrire sur la musique. Et pourquoi je suis arrivé dans une autre forme de journalisme qui est devenue une forme de journalisme d'enquête sur les affaires, etc. C'est les hasards de la vie de bureau. En fait, j'étais assis à côté du chroniqueur judiciaire. C'est-à-dire, c'est la personne qui va au procès et qui raconte ce qu'il se passe dans un procès, un monsieur qui s'appelle Gérard Schmitt, que j'adorais. Et quand il est parti à la retraite, il m'a dit, mon petit bonhomme, ce qui m'appelait comme ça, tu vas me remplacer. Et donc, je suis passé de la rubrique culture à la chronique judiciaire. Et donc, j'ai découvert le monde de la justice en le racontant, mais sous un angle très particulier, qui est celui de l'audience, qui est celui des procès. Et de fil en aiguille, peut-être un peu par orgueil professionnel, j'en avais marre de raconter une histoire qui était déjà ficelée par d'autres. Sur un procès, en fait, c'est une histoire qui est déjà ficelée. Il n'y a que la fin qu'on ne connaît pas, mais elle est ficelée, et c'est bien normal. Bah, par une enquête de police, une enquête de gendarmerie, une enquête de procureur et de juge d'instruction. Et au fond, le mouvement qui a été le mien, c'était de me dire, mais en fait, on n'est pas obligé de confier son cerveau aux autres. Nous, journalistes, on a bien le droit aussi de trouver nos informations. Et puis notre métier, ce n'est pas de publier des informations pour savoir si des gens ont commis des délits ou pas. On n'est pas là pour juger pénalement les gens. Parfois, nos enquêtes révèlent des informations dont vont se saisir la justice, mais ce n'est pas notre utilité sociale. Notre utilité sociale, c'est de mettre sur la table des informations vérifiées d'intérêt général. Et c'est comme ça que je suis passé du geste de raconter, de donner pompeusement mon avis sur le talent des autres, à essayer de trouver des informations.
Et justement, on l'a vu avec notamment l'affaire Cahuzac, mais votre journalisme, il n'a pas seulement révélé certaines affaires politiques. Comme vous le disiez, il a parfois changé aussi la politique en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses conséquences après cette affaire de 2012?
Oui, alors en fait, vous savez, nous, le Mediapart, le journal pour lequel je travaille depuis 18 ans, c'est-à-dire depuis sa fondation, on est né sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et sous Sarkozy, on sortait plein d'affaires, au point qu'on nous taxait, enfin ceux qui aimaient bien ne pas nous aimer, nous taxaient d'anti-sarkozistes primaires. Voilà, donc c'était un peu l'étiquette qui nous collait. Et voilà que quand un président socialiste arrive au pouvoir, on est le journal qui, 6 mois après, révèle l'affaire qui va faire trembler sa présidence, qui est l'affaire Cahuzac, puisque pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Jérôme Cahuzac, c'était le ministre du budget, c'est-à-dire au sein du gouvernement, le ministre qui doit lutter contre la fraude fiscale et dont on va révéler qu'il était lui-même un fraudeur fiscal depuis 20 ans en ayant détenu des comptes non déclarés, d'abord en Suisse, puis à Singapour. Et c'est vrai que l'affaire Cahuzac et son dénouement a eu des conséquences institutionnelles assez impressionnantes et je crois inédites sur ces dernières années, puisque parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac et une immense émotion suscitée par le choc de nos révélations, même s'il nous a fallu batailler pendant de longs mois pour imposer nos informations comme des informations. Au début, quand même, l'accusé numéro un de notre propre enquête, c'était Mediapart. Les conséquences ont été multiples. Le président de la République a créé le parquet national financier au sein de l'ordre judiciaire. Il a créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est-à-dire pour contrôler les évolutions de patrimoine des élus, des députés, des sénateurs, des sénatrices, des ministres, mais aussi des hauts fonctionnaires. A été créé un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales au sein de la police judiciaire. Et puis, il y a eu des nouvelles lois qui ont été prises dans la chaleur de l'événement Cahuzac. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que toutes ces réformes législatives et institutionnelles ne faisaient pas partie du programme de François Hollande. C'est parce qu'il y a eu des révélations de presse et d'une presse indépendante vis-à-vis d'un pouvoir quel qu'il soit que le président de la République s'est dit « Ah là là, il faut changer des choses dans nos lois et dans nos institutions. » Ça montre une chose, c'est que les journalistes, parfois, ce sont des meilleurs réformateurs que les politiques.
Des scandales qui ont fait bouger la vie politique et judiciaire, mais aussi l'opinion publique. Est-ce que ces révélations ont créé une forme de confiance vis-à-vis du journalisme indépendant?
Ah, je ne sais pas. C'est très dur de répondre à ça, d'autant que quand on fait ce journalisme-là, il faut être un peu comme parfois le capitaine dans le film Le Crabe Tambour. C'est-à-dire que on a beaucoup de vent de face, on s'en prend plein la poire. Pour ne pas répondre de nos informations, on attaque le messager, donc on met en cause le journalisme, on criminalise le journalisme. ce qui crée du brouillage dans la conversation publique. Ce que je veux dire par là, c'est que il est très facile de ne pas aimer Mediapart si on ne le lit pas, parce qu'on entend plein de choses complètement fausses sur le journal, mais parce qu'il y a une petite mondanité beaucoup parisienne de gens qui ont été dérangés par nos informations et qui mènent des espèces d'attaques réputationnelles contre le journal. Alors évidemment, Mediapart peut être critiqué comme tout organe de presse, mais qu'on nous juge sur pièce. Voilà. Et donc c'est vrai que nous, souvent, on doit batailler, y compris en dehors des propres colonnes de notre journal, pour essayer de montrer tout simplement la sincérité, l'honnêteté, j'espère la rigueur avec laquelle nous menons nos enquêtes. Et cet exercice de transparence auquel je me prête, mais comme plein de gens de Mediapart se prêtent, à la radio, à la télé, on a très tôt considéré que c'était très important pour essayer de retisser de la confiance entre ceux qui produisent l'information, celles et ceux qui produisent l'information, et celles et ceux qui la reçoivent, à savoir les citoyens. On ne peut pas ignorer que les médias sont au cœur d'une immense défiance démocratique et on en est, nous, journalistes, en partie responsables. Et donc, il faut qu'on montre comment on travaille. Moi, je ne suis pas pour qu'on soit en haut de notre chair, en train de regarder le bas peuple de haut et lui expliquer ce qu'est la vie. Ce n'est pas ça. Hein. Nous, on ne cherche pas notre légitimité dans les yeux de ceux qui ont du pouvoir. On est là pour, justement, alimenter la grande conversation démocratique avec des informations, pas des opinions. Les opinions, le spectacle des opinions, le blabla des plateaux télé, ce n'est pas un métier de journaliste, ça. Avoir des opinions, c'est le rôle de tout citoyen, de toute citoyenne et de tout citoyen. En revanche, nous, on a un métier, c'est de produire de l'information.
Et justement, là, vous parlez de votre travail en journalisme d'investigation et puis des plateaux télé. Vous vous êtes tourné vers l'investigation politico-économique, entre guillemets, mais également vers le journalisme indépendant en travaillant, comme vous l'avez dit, avec Mediapart. Pourquoi ne pas avoir continué à collaborer avec Libération, Le Parisien, Le Monde ?
Mais parce que moi, j'ai été très séduit par la promesse des fondateurs de Mediapart. Et le premier d'entre eux, qui est le plus connu, Edoui Plenel, qui a quitté la présidence du journal il y a 2 ans maintenant. Le discours, justement, étant basé sur l'idée qu'il n'y a pas une crise de la demande en France vis-à-vis du journalisme, il y a une crise de l'offre. Et que dans un moment d'ultra-concentration historique des médias privés en France, l'indépendance était la clé de voûte, l'indépendance économique. Hein, Mediapart, comme d'autres, hein, comme Le Canard Enchaîné, est un journal qui n'a pas de subvention, qui n'a pas d'actionnaire milliardaire derrière lui. Enfin, c'est même un journal qui n'a plus d'actionnaire aujourd'hui du tout, Mediapart, qui n'a pas de publicité et qui n'a pas de lien avec les GAFAM. Donc, comme on le dit, seuls nos lectrices et nos lecteurs peuvent nous acheter. On ne dépend que de la confiance de celles et ceux qui nous lisent. Et c'est vrai qu'en 18 ans, notre fierté, c'est d'être devenu le troisième quotidien français, hein, derrière Le Monde et le Figaro, et que la clé pour être indépendant dans le journalisme, il faut l'être économiquement, pour ne pas avoir de fil à la patte, pour qu'il n'y ait pas des intérêts extérieurs à celui du journal qui vont venir, un peu comme avec des aliments, qui vont venir polluer le journalisme. On fait un journalisme bio. Et donc, pour répondre totalement à votre question, c'est d'autant plus important quand on s'intéresse aux atteintes à la probité, à la corruption, pour la dénoncer et pour la documenter. Parce que si des grandes multinationales, si des grands patrons qui ont des liens avec des hauts responsables politiques et que ces grands patrons sont aussi propriétaires de médias, bah ça ne crée pas un environnement hyper serein pour pouvoir faire des enquêtes indépendantes sur les atteintes à la probité en France qui sont un grand problème national.
Pour vous, Fabrice Arfi, le journalisme indépendant permet d'apporter une forme de vérité qui ne serait pas mise en lumière dans des médias à grosse, voire très grosse audience.
Non, je ne dirais pas ça comme ça, parce que dans des médias qui ne sont pas indépendants, il y a des journalistes extraordinaires qui font un travail absolument merveilleux et qui apportent des vérités factuelles à leurs audiences, à leurs lectrices et à leurs lecteurs. Mais oui, je suis un défenseur acharné de l'indépendance des médias et surtout de ce risque que fait courir sur la production de l'information la concentration inédite entre quelques mains de personnes dont le cœur d'activité n'est pas une information libre et indépendante. Le chiffre d'affaires des milliardaires qui détiennent l'essentiel des médias privés français, bon, bah c'est de faire de la téléphonie mobile, du BTP, de vendre des armes, de faire de la banque. Bon, bah c'est, ça ne crée pas un espace hyper serein pour une information libre et indépendante. Et donc, c'est comme s'il y avait une mer polluée. Voilà, la mer est polluée et il y a quelques petits poissons, plus ou moins gros, où nous essayons de faire ce métier bah, sans être pollué par l'eau dans laquelle nage le système médiatique, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que ça donne l'impression d'essentialiser et de généraliser en parlant de système médiatique.
Et quand on fait du journalisme indépendant d'investigation, on a le droit parfois à des attaques physiques ou morales. Il y a aussi des attaques sur le budget, je pense par exemple pour ce qui est de la radio à la FSER. Comment est-ce que vous combattez, comment est-ce que vous luttez et vous défendez votre journalisme indépendant?
Alors, pour répondre à la première partie de la question, c'est, moi je peux parler d'expérience. Être journaliste à Mediapart, c'est être dans un journal qui a connu des cambriolages, qui a connu une surveillance des services de renseignement, qui est un journal que deux procureurs et des policiers de la brigade criminelle ont tenté de perquisitionner parce que nous avions fait des révélations qui embarrassaient l'Élysée au moment de l'affaire Benalla-Macron. C'est un journal dont plusieurs de ces journalistes ont été espionnés et ont vu leur téléphone portable infecté par le logiciel espion Pegasus. C'est un journal qui a pu connaître des formes de harcèlement judiciaire, ou c'est un journal dont quelques-unes et quelques-uns de ces journalistes qui travaillaient sur l'extrême droite ont pu être violentés, molestés. Donc, il faut avoir le cuir épais. Et c'est vrai qu'il y a un peu, comme dans un combat de boxe, on donne des coups avec nos informations et parfois, on nous les rend, mais de manière parfaitement déloyale. C'est-à-dire, en dehors, on peut nous poursuivre devant les tribunaux et c'est, moi, on doit répondre de ce qu'on fait devant les juges. Hein. Je veux dire, il y a une loi depuis 1881. Si des gens estiment qu'on a porté atteinte illégalement à leur honneur et à leur considération et à leur réputation, c'est normal qu'ils nous poursuivent. C'est à nous de démontrer la qualité de notre travail. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, bien, c'est, la qualité des informations qui crée un public. Et ce public nous permet d'avoir de l'argent, non pas pour verser des dividendes, on n'en a pas versé un centime depuis 18 ans. Mediapart est un journal très rentable, mais pour ne cesser de le réinvestir dans le développement technologique, dans la qualité sociale de l'entreprise, dans les embauches, toujours plus de journalistes, toujours mieux de journalistes. Et je crois que là, il y a un cercle vertueux qui permet, on espère en tout cas, de nous mettre à l'abri du mauvais temps.
Et j'ai une dernière question. Dans une ère où l'investigation est menacée par la protection des sources, comment on investigue librement et en toute indépendance ?
On n'enquête jamais librement. Précisément, le métier, c'est un aphorisme qui est prêté à George Orwell. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait jamais tenu, cette phrase, contrairement à d'autres. Notre métier consiste à rendre public des informations que d'autres voulait ne pas voir être rendu public. C'est ça. Je veux dire, notre métier, c'est à la fois d'obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, et comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la justice supranationale, au-dessus de la justice française, la Cour européenne des droits de l'homme dit que la liberté d'informer en démocratie, c'est de pouvoir publier des informations qui, je cite, qui heurtent, qui choquent, voire qui inquiète tout ou partie d'une population. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accompagner d'un cortège de pétales de roses la communication des autres. Notre métier ne consiste pas simplement à écouter la bonne parole de ceux qui ont déjà le pouvoir de la communication et de les aider à accoucher comme dans une forme de maïeutique pour que les citoyennes et les citoyens comprennent. Non, nous, parfois, on va gratter là où ça fait mal, on va passer par des portes dérobées, évidemment toujours extrêmement légalement, et ce que je dis là est une métaphore, pour aller chercher des informations qui, une fois qu'elles sont publiées, vont déranger. Mais vont déranger aussi bien un syndicat qu'un patron, aussi bien une institution culturelle qu'un président de la République ou un ministre, aussi bien la France qu'un État étranger. Bon. Et en fait, si on n'a pas ça dans une démocratie, on n'a pas la démocratie. Ceux qui pensent qu'on a la démocratie qu'avec le droit de vote se trompent. Parce que si on n'a pas une pleine liberté d'informer, c'est-à-dire un plein droit de savoir pour les sociétés organisées de, bah, d'être éclairées sur ce qui se passe dans le monde tel qu'il est, et notamment leur monde et leur société, alors c'est comme voter avec un bandeau sur les yeux. Et ça existe. Hein, en Russie, dans la Russie de Poutine, il y a le droit de vote, mais il n'y a pas la liberté d'informer. Est-ce que c'est la démocratie ? J'en suis pas sûr. Je crois même que c'est plutôt une autocratie, voire une dictature. Et donc oui, quand on fait ce métier-là, il est toujours attaqué. Et nous, les journalistes qui faisons de l'information, on ne s'autorise pas nous-mêmes. On ne publie pas des enquêtes parce qu'on pense que. On publie des informations parce qu'on a des sources. Nous, on n'est rien sans sources. Un éditorialiste, il lui suffit d'avoir une opinion pour produire quelque chose. Un journaliste d'information, ce n'est pas sa conviction ou son avis qui compte. Ce sont ses informations, ses témoignages, les documents, la rigueur avec laquelle il a essayé de réunir tout ça pour, comme une pièce d'un puzzle. Bon. Et donc, si on nous enlève les sources qui nous donnent des informations, alors que parfois elles n'ont pas le droit de le faire, mais c'est protégé ça par la loi, il faut être très vigilant parce qu'en effet, il y a beaucoup d'attaques détournées pour non pas discuter de la qualité de l'information qu'on publie, mais pour essayer de trouver nos sources, pour les tarir. Et ça, c'est un immense danger. Et il existe de manière, en détournant la loi, mais parfois, on a eu à le connaître dans l'histoire du journal, des sources qui sont mises en danger, y compris physiquement, parce qu'elles ont osé parler. Mais ce n'est pas que le journalisme indépendant, c'est tout le journalisme qui est concerné par ça. C'est notre trésor, ce sont les gens qui, parfois parce qu'ils ont une forme d'intérêt à le faire, parfois parce qu'ils sont habités du bien commun, parfois les deux, peu importe, c'est à nous de récupérer les informations, de les vérifier, de les contextualiser, de les confronter avec les personnes qui sont concernées, de les publier et de les assumer, y compris devant le juge.
Un beau mot de la fin, une belle définition du journalisme. Merci beaucoup,
merci à
Fabrice
vous.
Arfi, d'avoir
merci.
Été avec nous.
6h avant minuit.
On passe à la chronique. Ce soir, Estelle revient sur les élections municipales. Ça nous avait manqué. Hein. Avec un zoom sur les femmes dans la politique locale, c'est la chronique. Ça t'embouche un coin.
Alors, les municipales sont passées et je me suis posé une question toute simple. La politique locale, c'est toujours une affaire d'hommes ou pas en 2026 ? Parce que cette année, attention, petite révolution, pour la première fois, autant d'hommes que de femmes sur toutes les listes. On peut applaudir. Mais doucement quand même. Jusqu'ici, la règle n'est pas la même partout. La parité était obligatoire uniquement dans les communes de plus de 1000 habitants. Dans les plus petites communes, c'était beaucoup plus souple. Des listes à taille variable, sans réelle contrainte. Les électeurs pouvaient barrer des noms et en ajouter d'autres. On appelait ça le panachage. Et bizarrement, cette pratique a perpétué dans les esprits que l'usage et l'exercice du pouvoir étaient avant tout une affaire d'hommes. Les élections envoyaient au conseil municipal beaucoup plus de représentants masculins que féminins. Mais ça, c'était avant, puisque la parité s'applique maintenant partout. La loi qui met fin au panachage et qui impose des listes paritaires dans les villages a été votée en mai 2025. Et c'est donc appliqué cette année pour la première fois en 2026. Et quand on sait qu'il y a plus de 25 000 petites communes en France, on se dit « ça y est, ça va changer ». Enfin, sur le papier. Parce que dans la réalité, la parité, elle s'arrête souvent à la porte du pouvoir. Quand on regarde qui décide vraiment, là, les hommes reprennent la main. Alors oui, il y a des progrès, petit à petit. Le cadre législatif facilite progressivement l'engagement des femmes dans la vie publique. Par exemple, depuis 2019, les frais de garde d'enfants peuvent être pris en charge pour permettre à une mère de participer à une réunion ou un conseil municipal. Et en décembre 2025, il y a eu une nouvelle avancée. Une mairesse en congé maternité peut continuer à toucher ses indemnités. Parce que oui, on a découvert récemment qu'une mère, M-A-I-R-E, pouvait aussi être une mère, M-E-R-E. Incroyable, non ? Révolutionnaire. Mais est-ce qu'en 2026, la gente féminine a réussi à conquérir le fauteuil de mère ? Pour vous donner un ordre d'idée, en 1965, 20 ans après le droit de vote, on dénombrait 1% de femmes maires dans les communes. Aujourd'hui, en 2026, elles sont 22,6%, ce qui équivaut à 7888 femmes élues. C'est 516 de plus qu'après les municipales de 2020. Et plus on monte en taille de ville,
plus les mairesses disparaissent. Seulement 8 maires des 42 villes de plus de 100 000 habitants sont des femmes. Il y a Johanna Roland à Nantes, Catherine Trottmann à Strasbourg, Nathalie Appéré à Rennes, José Massy à Toulon, Nathalie Conders à Dijon, Laurence Ruffin à Grenoble, Erika Barreit à Saint-Denis à La Réunion, Sophie Jossin à Aix-en-Provence. Oui, je les ai toutes listées parce qu'elles le méritent. On le voit bien, le fauteuil de maire reste le plus souvent une affaire d'hommes. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là. Selon les données compilées par Politis, seulement 24,4% des listes aux élections de 2026 étaient menées par une femme. Sans surprise, le moins bon élève est l'extrême droite, avec à peine 22% de femmes contre 77% des hommes. A l'inverse, plus une liste est classée à gauche de l'échiquier politique, plus elle a de chances d'être portée par une femme. Outre la place sur les listes, la répartition reste très genrée. Aux femmes, la petite enfance, la culture, la santé, et aux hommes, les finances, le sport, la sécurité. Bref, la féminisation avance petit à petit. À ce rythme-là, la parité réelle dans les mairies, elle arrivera en 2083. Alors en attendant, on peut toujours se consoler avec cette idée simple, que le monde tournerait beaucoup mieux si les femmes en étaient aux commandes, selon les dires d'une grande philosophe féministe, ma mère.
Merci Estelle, merci maman d'Estelle, le grand ciao. On va voir si y a un petit message sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Et non, vous n'avez pas très bien travaillé pendant les vacances, mais il n'est pas trop tard pour remédier à ça. Vous pouvez nous laisser un message vocal au 02 30 96 25 35. On vous écoute, on diffuse tout ça à la fin de l'émission. Ce soir à la technique, c'était Maud. Merci à toi et à demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.